Vous mettez 10 grammes de sel par litre d'eau.
Je fais cuire des petites pommes de terre nouvelles.
Et des fraises, bien sûr.
Europe 1, hyper simple. 11h30, la table des bons vivants.
On envoie les tomates farcies. Allez.
Laurent Mariotte.
On y va, table numéro 1.
Bien le bonjour les amis, soyez les bienvenus. Hein. Vous le savez, vous êtes à la bonne table pour bien manger et comprendre ce que nous mangeons. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. C'est ici que ça se passe et pas ailleurs. Chaussez vos bottes, hein. On vous emmène dans les bois ce samedi matin ramasser des champignons avant les grosses gelées. Et il n'y a pas que des girolles ni des cèpes, vous entendrez. Les vacances de la Toussaint ont commencé, vous allez peut-être vous balader en France. Eh bien, on va vous donner des adresses d'auberges et de fermes auberges. Et on parlera de nouvelles auberges aussi, des populaires et des gastronomiques. Voici mes bons vivants du jour. Même pendant les vacances, ils passent derrière les fourneaux et nous régalent. C'est le bistronome en chef Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent, bonjour Olivier.
Quand il prend des vacances, c'est pour aller rendre visite, non pas à une vieille tante, mais à sa cave. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis, revenez passer quelques jours dans ma cave, vous verrez, vous serez bien.
Je la connais, votre cave, elle est belle. On y dormirait.
Ah,
elle est magnifique, votre
cave.
Si on
n'a pas oublié le tire-bouchon.
Exactement. Et ce n'est pas fini, à midi moins le quart, l'humoriste et réalisateur Fabrice Eboué va nous rejoindre pour la sortie de son dernier film, Barbac, un film drôle, vraiment piqué d'humour noir, ça va nous faire du bien. Petit rituel, vous le connaissez en écoutant le podcast ou si vous êtes en voiture, en revenant du marché ou en revenant du sport ou en allant où vous voulez ou à la maison, posez-vous la question, quel est votre goût de la semaine, Yves Candebord ?
Alors mon goût de la semaine, Laurent, c'est, on me l'a amené cette semaine et ça m'a émerveillé. Voilà, Nutella a un intérêt de faire attention.
Ah, j'ai eu peur. On m'a amené un pot de Nutella, c'est mon goût de la semaine.
Il avait découvert ça, en fait.
J'ai un apiculteur qui vient des Landes, qui vient d'Ossegor, Laurent Cazenave, qui m'a amené du miel de chocolat. Alors, je vous ai préparé une petite cuillère.
Du miel de chocolat ?
C'est simplement du miel avec un cacao très pur. Et j'ai trouvé, en le goûtant, alors c'est vrai qu'il faut aimer le miel, parce que le miel est quand même présent.
J'adore.
Mais on a une fin de bouche après, un accompagnement avec le cacao. Je trouve que c'est une alternative pour les enfants.
Ah oui, il y a une amertume en plus.
Arrêtons le Nutella, mettons-nous miel de chocolat.
C'est un miel costaud, c'est quoi? C'est un miel de châtaignier,
c'est
ça?
C'est un miel qui est un peu fort, c'est peut-être le seul reproche qu'on peut avoir. Je lui ai demandé justement peut-être de prendre un miel qui soit un peu plus doux, voilà, pour que le contraste soit encore plus saisissant.
Ouais, parce que la dominante est très, très mielée. Hein.
C'est très mielé.
Mais moi j'aime bien. Moi.
Mais c'est très très bon. Alors en plus, au petit déjeuner, c'est merveilleux. Oui. Et en ce moment, les poires, une belle poire juste pochée, glacé avec ce miel de chocolat, on a un dessert
une belle Hélène Express.
Oui. Une belle Hélène Express.
Ah, c'est bien ça.
Vive
le
miel de chocolat.
Oui, et vive nos apiculteurs. Vous êtes nombreux à nous écouter. Bon, on vous salue et on achète du miel français et pas du faux miel dans des pots en plastique en supermarché coupé au sirop de glucose. Hein, du vrai miel. Olivier Pouls, votre goût de la semaine.
Eh bien, un magasin dans le 12e arrondissement qui existe depuis un petit bout de temps déjà, mais que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui s'appelle La Main Verte. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin de producteurs dans lequel on retrouve des étals avec des produits de saison qui sont sourcés, qui sont bio et dont on sait qui les a produits à chaque fois. Et ce qui m'a épaté dans ce genre de boutique en général, un peu bobo, il ne faut pas se cacher, c'est que les prix sont extrêmement raisonnables et qu'ils sont bien moins chers que ce que j'ai pu constater au marché quelques jours après. Et donc, bon, évidemment, c'est un peu la fin de la saison pour ce qu'on appelait les légumes de fin d'été. Il y avait encore quelques tomates qui traînaient, mais à des prix tout à fait raisonnables. Des magnifiques courgettes extrêmement fermes et denses, comme j'aime les manger. Il y a plein de choses. Eh bien, bravo.
Eh bien, on prend mon goût de la semaine. Moi, ce sont des raviolis au citron. Figurez-vous que j'ai acheté avec une belle farce au citron et je les ai cuisinés comme ça avec de l'huile d'olive, un petit peu de ricotta aussi.
Je veux dire, sucré ou salé?
Alors on peut les faire de deux façons. Moi je les ai dégustés en version salée avec de l'huile d'olive et un petit peu d'ail, mais on peut s'amuser à les passer à l'huile d'olive chaude et les griller et ça fait un dessert aussi avec du sucre glace. Ça marche dans les deux versions et on en trouve un petit peu partout. Ça des beaux raviolis au citron chez les traiteurs italiens.
Mais les pâtes au citron, c'est vraiment délicieux.
Ah, moi j'aime beaucoup, j'en fais de temps en temps. Tiens, petite parenthèse, chers auditeurs, la semaine dernière, vous vous souvenez, on lançait notre carte interactive sur europe1.fr pour aider les restaurateurs à recruter. Il y a plusieurs offres d'emploi qui ont été déposées encore cette semaine sur le site europe1.fr. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes à la recherche d'un travail en cuisine ou en salle. Et vous, amis restaurateurs, continuez à aller sur le site europe1.fr. Ça marche bien cette histoire. Allez, c'est l'heure d'aller au marché. Direction celui du Neudorf à Strasbourg. Mélina Fachin, notre correspondante dans la région, vous a demandé ce que l'automne apportait dans vos paniers. Ouvrez-les, tiens.
Les endives, je vais en faire une salade avec des noix, avec des pommes et des petits cubes de fromage. Et la salade frisée, bah pareil avec des lardons et des petits oignons et des tas de bonnes choses.
Donc les bons produits de saison, c'est les pommes poires, le raisin surtout. Et puis après, tout ce qui est légumes d'hiver. Il y a de quoi faire, ouais. La bonne soupe.
Les soupes aux légumes, ouais. Un faible pour le butternut lait de coco, ouais.
Alors les fromages du moment, forcément avec le temps automnal, bah, y a le Mont d'Or. On le pique avec de l'ail. On met du vin blanc. 20 minutes donc au four. Et puis ben, là, la saison de la raclette commence.
Bien, je vous dois, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Eh ben merci messieurs, dames, et vive les marchés encore une fois, c'est là que se passe plein de choses autour de nos produits
la
de
vie.
Saison. La vie, c'est la vie.
Le contact.
Le marché, c'est la vie.
C'est vrai que c'est le bonheur, parce que les commerçants, eux aussi, sont heureux d'avoir les produits de saison. Ça leur permet voilà, de raconter une histoire différente. Et quand j'entends parler d'endive, Laurent, qu'est-ce que c'est bon une endive.
Ah oui, une endive voilà. Pleine terre
et
aussi.
Dernièrement, j'ai pris une endive que j'ai simplement cuit à la vapeur, tout simplement. J'ai râpé de la poutargue dessus.
Ah oui.
Endive tiède, poutargue déposée dessus. C'était vraiment un équilibre assez étonnant.
Ah, ça doit être beau, ça. Oui.
L'endive était qu'une vapeur, donc très peu assaisonnée. Et la puissance et le salé de la poutargue relevaient l'ensemble.
Ah oui, puis l'amertume de l'endive qui contraste bien avec la poutargue. Ce sont des œufs de mulet séchés, hein, effectivement. On en trouve du côté de Martigues, de la poutargue. Restez avec nous, on ne va pas aller du côté de Martigues, mais on va remonter dans le Pas-de-Calais. On va se balader en forêt et on va vous rapporter des champignons avant les grosses gelées. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Ça y est, ce sont les vacances de la Toussaint, à l'occasion de cuisiner en famille et de se promener dans les bois pour ramasser des champignons si on a du bol. Et ben voilà, les grosses gelées arrivent, donc c'est vrai qu'il faut y aller maintenant. Les cèpes et les girolles ont ouvert le bal. Olivier, vous adorez ça. Mais il y a d'autres merveilles forestières à découvrir. La coulemelle, les pieds de mouton, le sparasis crépus. Parlez-nous, tiens, de la coulemelle, Olivier.
Alors, un grand champignon, presque 30-40 cm de hauteur, de couleur beige, un grand chapeau aplati en forme de parasol,
c'est ça.
Un pied rigide, un anneau épais qui doit coulisser, hein, comme une bague sur le doigt, de
mais
la chair blanche.
Mais vous en parlez bien, dites donc.
Ah ben, vous savez, moi, les champignons, c'est vraiment un truc qui me fascine. J'adore ça. Je regrette d'ailleurs de ne pas m'y connaître mieux que ça, parce qu'il faut être très prudent avec les champignons, mais ça me fascine. C'est merveilleux quand on, au détour d'un petit chemin sous un arbre, tac, on les repère. Et qu'est-ce que c'est bon dans l'assiette.
Et qu'est-ce que c'est bon. Et parmi les champignons de saison, Yves, il y a les pieds de mouton aussi. Hein.
Oui, il y a les pieds de mouton qui sont peut-être pour moi l'un des champignons que je préfère à cuisiner parce qu'on peut en faire beaucoup de recettes avec. Alors, le pied de mouton, c'est un champignon qui est une couleur assez blanc-crème, qui est assez petit, avec un chapeau bosselé, voire un peu ondulé.
Très doux, très dusteux.
Très doux, avec un tout petit pied assez court.
Ouais.
Et où ils sont intéressants, c'est qu'ils sont croquants.
Voilà, ils restent fermes.
Ils ont de la mâche et ils ont un côté aussi fruité. Alors, on peut les faire sauter très simplement avec une persillade chaud, mais j'adore les faire en pickles. Parce que, justement, comme ils sont croquants, avec la marinade, on garde ce côté ferme et ils ont absorbé.
C'est bien, ça.
Et voilà, comme ils sont spongieux, ils absorbent la marinade et on peut les conserver pendant 2-3 mois au réfrigérateur. Et dès que
vous êtes
sortez...
très pickles en ce moment. Vous êtes très bocaux en ce moment. Hein. Ça sent le bouquet en préparation. Hein.
Non, mais on est très bocaux parce que oui, mais quand on a devant nous, quand on est en pleine saison, on a beaucoup de produits.
Mais
on
ne
peut pas tous les manger.
Mais ça sert à ça,
il
les bocaux.
Prévoir, bah, alors, parce que l'hiver, Laurent, on ne sait jamais.
Il va être long.
L'hiver,
il peut être long.
Oui, winter is coming.
Petite question sur les pieds de mouton. Il y a des aiguillons, vous savez, des petites aiguilles sous le chapeau. Qu'est-ce qu'on fait? On les gratte ou on les conserve?
Non, on les conserve. C'est pas génial. Quand vous allez juste les rincer sous l'eau, il ne faut surtout pas les tremper dans l'eau.
Non, rapide.
Il faut les passer délicatement sur un filet d'eau. Alors, ils partiront un petit peu, mais vous pouvez les conserver. Ce n'est pas désagréable, bien au contraire.
Il y a le sparasis crépus aussi,
hein,
qu'on appelle la morille des pins. On dirait un gros chou avec des alvéoles. Ça, c'est délicieux. Régis Marcon m'a montré comment le cuisiner à Saint-Bonnet-le-Froid. Une fois, je me souviens, il le cuisine comme un chou, justement. Il le fait rôtir, il le fait braiser. C'est délicieux, ça.
Moi, je le cuisine comme des morilles avec de la crème et du vin jaune. Ouais. Et la veille, pour que ça s'imprègne bien, il y a juste un enfer. C'est enlever les petites aiguilles de pin qui sont en général coincées dans les alvéoles.
Et il y en a.
Là, il y en a, oui.
Alors, vous pouvez trouver tous ces champignons sur dans les marchés, mais pas seulement, en se promenant dans les bois. Elle revient d'une belle cueillette dans le Pas-de-Calais. C'est Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour.
Bonjour Marion.
Vous vous êtes promenée dans les bois et vous n'avez pas pris n'importe quel guide. Hein. Vous êtes allée avec Jean-Baptiste Coclair, qu'on aime beaucoup ici, qui est un pharmacien et passionné de mycologie, qui a sorti un très beau livre qui s'appelle « Des cueillettes et des hommes » aux éditions de la Martinière. Donc qu'est-ce que vous êtes allée voir ? Racontez-nous.
J'ai chaussé les bottes, j'ai mis l'imperméable sur le dos et je suis allée avec lui dans la forêt de Mormal. Ça, c'est dans les Hauts-de-France. J'ai vraiment de la chance parce qu'il m'a emmenée vraiment dans ses coins personnel à champignons, au milieu des charmes et des êtres.
Vous avez le GPS.
Oui, ça c'est important, il ne faut pas se perdre, effectivement. On ne s'est pas perdu. On était seuls, tous les deux, tranquillement, au petit matin, panier dans une main, couteau dans l'autre. On s'est mis donc à la recherche de ces champignons. Il m'avait promis des cèpes, des amanites rougissantes, des pieds de mouton, des girolles. Allez, je vous emmène avec moi.
Regarde là, tu as toute une peuplée, des petits laquais à laquais.
Brun clair.
Brun clair, avec des lames bien espacées.
Ça se mange ce champignon ?
Oui. On va les passer au beurre, juste les chapeaux, parce que les pieds sont assez fibreux. Regarde, il y a de la carmétiste là.
Alors, là, on est vraiment sous les feuilles. Hein.
Ouais. Les animaux sauvages n'y vont pas. Et regarde, comme c'est beau.
C'est violet, vraiment.
Ouais, c'est un bijou. Comme je dis, ce sont mes petites pierres précieuses.
Oh là là, faut faire attention partout où on marche. Hein.
Bah oui. On est chez eux. Attends, je
regarde. Tu as les yeux qui furettent.
On est sur une magnifique golmotte.
Golmotte.
Ça, c'est notre Graal du jour. Amanite rougissante, anostriée, pied bulbeux. Voilà, des petites traces de rouge à la base du pied. Et voilà, ce qu'on recherchait, on est content, parce que c'est très très bon.
Ça sent le champignon. Hein.
Ah oui, ravissement des papilles.
Eh ben dites donc, vous en avez de la chance. Hein. Avec Jean-Baptiste Coclair, il y a des chefs cuisiniers qui se battent pour aller faire des cueillettes avec lui, vous savez. Hein, c'est un beaucoup de bol. Hein.
Beaucoup de chance, je sais bien. Et c'était pas fini, hein. Le panier s'est rempli au fur et à mesure de plein d'espèces différentes. Et ça, c'est bon signe, ça veut dire que la forêt est en bonne santé. Et à cette période, c'est vraiment magnifique avec les tons automnaux un petit peu partout. Alors, il m'a fallu quand même 15-20 minutes pour m'habituer et réussir à repérer moi aussi des champignons.
Il faut habituer son regard et puis après voilà, et puis la magie s'opère, j'espère.
Et là ?
Bah voilà, et ici on a ici un champignon. Alors, il est toxique celui-là, mais il a une bonne odeur de pomme de terre.
Mais alors, ça veut dire s'il est toxique, on le touche surtout pas.
Avant de le prendre, on ne sait pas s'il est toxique forcément, mais il n'y a pas de toxicité de contact. Ce qu'il faut, c'est pas mettre à la bouche, bien se laver les mains en rentrant, et puis surtout ne pas mélanger les bons et les mauvais dans le panier. Ça peut être une simple désordre intestinal jusqu'à malheureusement la fatalité, comme on dit.
Mais il ne faut pas rigoler avec les champignons. Non. Quand on a un doute, on ne les cueille pas. Et quand on a un autre doute, on les emmène chez le pharmacien.
On ne les met surtout pas à la bouche. Le pharmacien, des associations aussi qui peuvent vous renseigner. Et le livre de Jean-Baptiste.
On le fait tester à sa belle-mère éventuellement, pour savoir s'il est bon ou pas.
Ça dépend si vous entendez bien ou pas.
Ça n'engage que vous. Et le livre de Jean-Baptiste Coclair, Des cueillettes et des hommes, aux éditions de La Martinière, donne beaucoup de conseils et permet de reconnaître aussi les champignons.
Et regardez, je vous ai ramené mes petites trouvailles au bout du d'une heure, une dizaine quand même d'espèces comestibles.
Ceux-là, ils sont tous bons. Hein.
Pas des toxiques, oui, effectivement. Alors, du cèpe, de l'amanite rougissante, ça c'est vraiment le champignon régional par excellence. Ils se battent pour trouver ce champignon-là. La vesperlée, le laquais améthyste, c'est vraiment magnifique.
Des
champignons très variés.
Un petit cèpe. Ce week-end pour nos auditeurs qui vont aller trouver des champignons en forêt. Ça peut être des cèpes, s'ils ont de la chance, ou effectivement des petites chanterelles aussi. Hein.
Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les faire en bouillon. Voilà. Sur une base d'une bouillon de volaille ou une base de pot-au-feu, ou voire un bouillon de légumes, quand vous avez bien lavé vos champignons, les émincer assez finement et la dernière minute, les mettre dans le bouillon, un trait d'huile de noisette.
Ah oui, c'est bien.
Et les manger. Parce que vous avez toutes les saveurs de la forêt qui vont... Le champignon n'est pas cuit, il a encore toute son eau de végétation qui va rejeter dans le bouillon. Et on a vraiment ce côté très forestier. C'est très simple, mais ça marche à tous les coups.
Eh bien, on prend. Merci Marion Sauveur pour cette belle balade. C'est le week-end, ce sont les vacances. Prenons le temps d'aller se balader en forêt et de revenir avec des champignons. Nous, on revient dans un instant avec des fermes auberges et de nouvelles auberges.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
c'est les vacances, alors bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Et tiens, justement, si on faisait une petite pause dans les fermes auberges, vous savez, des lieux ruraux qui offrent le gîte et le couvert aux voyageurs, comme on dit, c'est une belle et bonne façon, je trouve, de découvrir nos régions. Yves, Olivier, vous avez déjà passé une soirée, une nuit dans une vraie ferme auberge, Yves ?
Alors, ça m'est arrivé, moi, quand j'étais gamin, voilà, oui. Parce qu'on partait avec des copains en vacances entre nous. Alors, on allait rarement dans les campings parce que ça ne nous convenait pas. On allait dans les fermes auberges et on allait sur les fermes auberges au-dessus de Pau, dans la vallée d'Ossau. Et c'est vrai qu'on était accueillis.
À la capitale.
À la capitale, voilà, sur la région. Et on était accueillis par les bergers. Et ça met une émotion. C'est quelqu'un qui vous reçoit un peu chez lui et qui vous présente ce qu'il a préparé pour vous, ce qu'il a produit. Et
c'est vrai que ça met toujours. C'est un autre rapport au temps aussi. Hein.
Un autre rapport à l'homme aussi.
Ah ben moi je vais vous faire plaisir Laurent parce que j'ai des souvenirs vosgiens en matière de ferme auberge et je me souviens j'ai habité un peu dans cette région aussi il y a quelques années, je vais pas raconter ma vie, mais c'est vrai que j'allais faire de grandes balades en forêt et après bien vanner le, vous savez quand on est en plein hiver on a la peau qui tire un peu parce que on a marché, ça picote et on va s'attabler dans une ferme auberge, le feu crépite, on est accueilli comme à la maison, j'ai des souvenirs incroyables de tarte aux myrtilles, de tofaille.
Mais oui, il y en a de belles, oui, ah, sur le massif vosgien, c'est vrai. Alors la ferme auberge est un lieu rural, rustique, paysan. Il y a une définition précise hein, d'ailleurs pour la ferme auberge.
Eh ben, dans ferme auberge, il y a ferme, oui. Car ça doit être une exploitation agricole où on peut effectivement se loger ou surtout se restaurer. Et il faut que 50% des produits qui sont dans votre assiette proviennent de l'exploitation. Et évidemment, vous êtes chez les gens, vous êtes chez les paysans au sens noble du terme. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à un service 3 étoiles avec des cloches en argent, etc.
Mais
c'est ça qui est sympa.
On vient
c'est
pour de la convivialité. Exactement. On vous emmène justement dans une ferme auberge, la ferme auberge familiale du Pré Molène à Ablain-Saint-Nazaire, dans le Pas-de-Calais. Et nous sommes avec Louise Bonneventor au téléphone. Bonjour Louise.
Bonjour Laurent.
Comment ça va ?
Ben, ça va bien.
Agricultrice, aubergiste et fière de l'être, j'imagine.
Ah, tout à fait. Vous l'avez bien résumé.
Alors racontez-nous, avec votre frère et votre mari, vous êtes à la tête d'une ferme et d'une auberge. Ça date de 2001 et c'est vos parents, je crois, hein, qui avaient décidé d'accueillir des gens le temps d'un repas ou d'une nuit. Hein.
C'est ça, tout à fait. Mes parents ont créé ça dans les années 2000, comme vous dites bien, une ferme auberge et des chambres d'hôtes afin d'accueillir les gens à la ferme, mais sous une autre forme que la visite de la ferme. Donc c'était le but d'avoir la ferme dans l'assiette, comme on dit. Donc moi, mon frère et mon mari, on a repris l'exploitation de mes parents et on continue cette diversification qu'ils nous ont transmise.
Alors quel genre d'exploitation vous avez, Louise ?
Alors nous, on a une exploitation polyculture élevage, donc des cochons sur paille, des vaches, des poulets, des pintades et les cultures, donc pommes de terre, blé, maïs, betteraves sucrières.
Eh ben oui, on le disait avec Olivier, on ne peut pas devenir ferme auberge n'importe comment, il y a des obligations à respecter, un cahier des charges, produit de la ferme majoritairement à 50%.
C'est ça, tout à fait. Donc majoritairement 50%. Enfin, bon, nous, on suit la qualité de la charte du réseau Bienvenue à la ferme. Et donc, nous, on est un peu plus que 50%. On est à peu près à 70-80% de nos produits dans l'assiette. Et puis aussi, comme il le disait, que ce soit les agriculteurs qui vous servent et qui cuisinent. Ça, c'est très important.
Mais alors, en parlant de cuisine, quelles sont vos spécialités ? Qu'est-ce qu'on mange chez vous ?
Et ce midi, tiens, samedi midi, là ?
Eh ben, ce midi, en entrée, les gens ils vont avoir une planche de charcuterie, donc saucisson sec, jambon cru, saucisson à l'ail, pâté de campagne. Et puis en plat, il y a un porc à la broche qui est en train de rôtir au feu de bois.
Oh, oh là 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 là.
Un porc entier ?
Oui, 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 c'est un porc entier qui cuit au feu de bois pendant au moins 6 heures. Donc mon mari va remettre du bois au moins tous les quarts d'heure.
Ah, j'ai l'odeur, ah, ça fait plus envie.
Voilà, il est en train de rôtir là, il sent bon, je vous le dis.
Dites-moi que la peau est croustillante.
Ah oui, 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 comme on dit, la bonne coin croustillante, ça on peut pas l'oublier dans les assiettes. Et puis ça avec une petite purée de butternut parce qu'on rentre dans l'automne et c'est la saison. Et puis des pommes de terre sautées puisqu'on est aussi dans les nouvelles pommes de terre là. Et une petite carotte fondante et en dessert bah, une petite tarte au sucre hein, puisqu'on est dans le nord.
La tarte au sucre, c'est la spécialité locale.
Ils sont gâtés
et tiens ouais. Combien ça coûte un menu comme ça parce que là il y a à manger hein.
oui, oui tout à fait. Il y a manger. Souvent, les gens, ils repartent, ils ont plus faim. Et en général, on est sur une formule à 22,50, entrée, plat, dessert.
Et vous rendez compte, la planche de charcuterie maison, du porc à la broche, la purée de butternut, les pommes de terre sautées, la tarte au sucre. Et qu'est-ce qu'on boit alors? Parce que là, il n'y a pas de vigne dans le Pas-de-Calais encore. Là, on ne peut pas faire local.
Non, c'est en train de se développer, mais ils ne sont pas encore arrivés.
Quoique si, sur les terrils, on fait du vin de terril, c'est vrai.
Ouais. Oui, tout à fait. Et puis, ça commence à se développer petit à petit. Mais bon, là, bon, on n'en a pas encore des grands crus, on va dire. Mais bon, nous, on va servir une bonne bière. On a la brasserie Saint-Germain de la page 24 qui est à côté de chez nous.
Ben voilà.
Ça va être plus facilement la bière. Ou après, du cidre ou de la bière ou du vin, hein, bien sûr. On a quand même... On rajoute un peu de petites choses quand même, autres, des choses.
Oui, et puis Louise, la particularité de la ferme auberge aussi, c'est que c'est vous qui faites le service, hein, avec votre mari ou avec votre fils.
C'est ça.
Ce sont les paysans qui reçoivent, c'est ça, c'est vraiment dans le cahier des charges.
Puis de toute façon, il peut y avoir que nous qui puissions parler de notre métier, parce qu'il y a un échange dans une ferme auberge, c'est pas que manger les produits de la ferme, c'est aussi échanger avec les gens et notre métier d'une autre façon que dans un tracteur.
Eh ben, merci Louise d'avoir été avec nous. Je rappelle votre ferme auberge, c'est celle du Prémolène à Ablain-Saint-Nazaire dans le Pas-de-Calais.
On arrive.
Hein. Bon week-end. Gardez trois parts de cochon. On débarque.
T'es grosse. Hein,
voilà.
On est
ensemble jusqu'à midi et demi. On emmènera peut-être Fabrice Eboué, notre invité, qui viendra nous présenter son film Barbac tout à l'heure. On va l'emmener avec nous. Et on retrouve évidemment des coordonnées de ferme auberge sur le site du réseau Bienvenue à la ferme. Et il y a aussi Accueil Paysan, qui est un réseau de confiance. Quelques adresses tiens repérées, Yves et Olivier, sur le groupe Facebook des Bons Vivants. Nos auditeurs aiment les fermes auberges aussi, Yves.
Oui, il y a Thérèse Ferretti qui dit que l'auberge du lac dans le Var est aussi un lieu assez particulier où on retrouve toute cette chaleur humaine.
Il y a le cadran solaire à Goméné aussi et la ferme auberge de Poumou. Voilà vos adresses.
Et puis moi, elle met trois fours au col de Lachelourde.
Ah, bah oui,
j'ai oublié celle-là.
Ah, il lâche pas les Vosges.
C'est pas moi, hein, j'y suis pour rien.
Mais c'est pas l'adresse de Jean-Luc Petit-Renaud
aussi,
si,
Jean-Luc Petit-Renaud, il adore cette adresse.
Oui.
On l'embrasse, il sera avec nous la semaine prochaine, Jean-Luc Petit-Renaud. Ne bougez pas, on continue à se balader partout en France. On revient avec de nouvelles auberges. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
On continue notre balade en France à la recherche de belles adresses régionales autour d'une cuisine locale. Après les fermes auberges, on va vous parler des nouvelles auberges. Il y en a des populaires, il y en a des gastronomiques. Elles ont en commun le but de nous faire aimer une cuisine locale. Et nous avons invité le journaliste et auteur Victor Coutard qui vient nous voir avec un très beau livre, Nouvelles auberges, paru chez Tana Édition. Il est avec nous en studio, au studio Coluche ce samedi. Bonjour Victor.
Bonjour.
Bonjour Victor.
Merci d'être là. Vous avez sillonné toute la France avec Anne-Claire Hérault qui est photographe hein, pour écrire ce beau livre. C'est quoi les nouvelles auberges alors?
Les nouvelles auberges, c'est un peu le retour des restaurants de campagne ou une sorte de révolution dans les restaurants de campagne. C'est des jeunes chefs qui s'installent dans des villages, parfois loin des flux touristiques traditionnels, et qui proposent une cuisine saine, simple et abordable un peu partout en France, donc au bord de la mer, dans la montagne, dans la forêt. Partout.
Tout est parti de l'auberge de Chassignol hein, en Auvergne. C'est le point de départ de votre livre, ça.
Oui, moi, c'est un endroit que j'adore. C'est un endroit c'est un vrai refuge gourmand. C'est très loin, il faut y aller. Et c'est très peu cher, je pense que c'est important de le dire. C'est 28 €, je crois, un menu complet en 4 étapes. Il y a une liste de vins qui est merveilleuse. C'est un endroit qui n'est pas forcément confortable, qui ne plaira pas à tout le monde.
C'est un peu rustique,
Peu rustique, oui. Mais c'est un endroit où on se sent bien accueilli, où les gens sont gentils et où on mange vraiment très très bien.
Alors, vous avez imaginé les 10 commandements des nouvelles auberges. On n'est pas loin des 10 commandements de la nouvelle cuisine de Goemio à l'époque. Mais je trouve que c'est important de les rappeler, ces 10 commandements, parce qu'effectivement, dans une auberge, on vient chercher de la convivialité. On en parlait juste avant avec Yves pendant la pause. De quoi on a envie quand on rentre dans une auberge, Yves?
La première chose, c'est de voir un auteur, un patron qui est là, qui est heureux de vous recevoir, qui vous prend pratiquement dans ses bras. Là, je pense que le terme auberge va, bien sûr, le terme aubergiste. Et le terme aubergiste, c'est de la convivialité, c'est de la générosité, avant tout humaine.
Et vous le dites, hein, d'ailleurs, dans vos 10 commandements, Victor, le client, tu ne snobberas point. En circuit court, tu achèteras, de saison, tu cuisineras. Des vins naturels, tu serviras. Ton restaurant, tu chériras. Pourquoi des vins naturels? Parce qu'ils veulent faire découvrir une nouvelle génération de vignerons, un peu, ces aubergistes.
C'est ça, je pense que c'est une sorte de nouvelle tendance gastronomique qui est associée en fait à ces nouvelles pratiques du vin. Et qu'en fait, ils ont une philosophie qui est assez proche. et aussi parce que c'est rigolo, les nouveaux vignerons sont installés parfois dans des appellations qui avaient été délaissées ces dernières années. Et donc,
oui, mais ils ne sont pas forcément nature pour autant.
Non, ils ne sont pas forcément nature pour autant, mais par contre, dans les hôtels, les auberges qu'on a citées, ils servent du vin naturel.
Oui, c'est une grande tendance, c'est une mode.
Alors, ces adresses que vous proposez, Victor Coutard, dans ce livre, elles font la part belle aux producteurs locaux, évidemment. Alors, je pense à la cabane à Matelot, avec le pêcheur qui est devant le restaurant, hein, qui vient fournir les produits du jour.
Il est même propriétaire du restaurant, ce pêcheur, et du coup, il a 22 km de Loire qu'il pêche tous les jours, et tout ce que vous mangez, c'est des poissons pêchés le matin même, nuit même.
Il y a de la lamproie, il y a de la lauze. À Chassignol, le lait de la ferme juste à côté, voilà. Bien entendu.
Et les cochons et le potager.
C'est incroyable que ça doive s'appeler les nouvelles auberges, parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'était exactement comme ça que ça se passait il y a 30 ans dans toutes les auberges.
Ouais, alors c'est malheureusement, ça a glissé.
C'est vrai c'est l'idée même de ce que c'était à l'époque.
Oui, mais on va dire la vérité, beaucoup d'auberges ont fait appel à des grossistes, à des plats préparés, une cuisine qui ne faisait plus à la maison, il faut le dire.
C'est ce que j'ai dit dans l'introduction, en fait, elles ne sont pas forcément nouvelles. En fait, c'est un point d'équilibre.
C'est les nouvelles anciennes.
C'est un point d'équilibre entre la tradition et peut-être ce que le futur peut nous apporter.
Oui, puis c'est une façon de réexplorer un territoire. Je pense par exemple à Quiberon. Dans votre livre, il y a le petit hôtel du Grand Large de Catherine et Hervé Bourdon qui sont installés là-bas. Et c'est devenu une vraie adresse de référence. Et ça permet de découvrir aussi Quiberon hors des sentiers battus.
Bien sûr, c'est un exemple. Ils ont une étoile, le petit hôtel du Grand Large. C'est une cuisine qui est basée sur la mer. Et c'est un endroit quand même complètement incroyable. Ils emploient deux jardiniers à temps complet. Donc quand vous payez pour de la nourriture, vous payez aussi pour qu'à Quiberon, il y ait des gens qui puissent vivre du jardin et de leur passion ou de leur métier.
Ça crée de l'emploi aussi sur le lieu.
C'est quelque chose qui est très important pour moi. Ces nouvelles auberges, elles sont une dynamique pour ces villages. Elles s'inscrivent dans un environnement et elles ne se coupent pas des gens de la nature qui les environne. Et c'est vraiment le cœur du projet, c'est ça. Et c'est pour ça que ce n'est pas des Parisiens péteux qui s'installent à la campagne, c'est des gens qui veulent s'inscrire dans un territoire social et environnemental.
Alors j'ai regardé votre livre et j'ai vu qu'il y avait l'auberge de La Roche. Alors j'y suis allé, moi, il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est assez extraordinaire dans un village qui est un peu...
Dans quelle région ?
C'est au-dessus de Nice, entre Nice et Isola 2000, quand on rentre dans le Mercantour. Il fait 100% de produits des Alpes-Maritimes. C'était un village qui était un peu moribond. Il a redonné, j'ai envie de dire, le poumon. Il a redonné du souffle au village et il fait vivre les gens autour de lui. Et il amène en plus une densité humaine et peut-être aussi une ouverture d'esprit à un village qui touche à une cuisine qui n'est peut-être pas totalement compréhensible par le commun des mortels. Mais les gens ont confiance et surtout à des prix qui restent très accessibles à tous les villageois. Parce que c'est souvent le reproche qu'on peut faire dans des restaurants qui sont assez qualitatifs dans des régions de France ou dans des coins un peu perdus, c'est qu'il y a des prix un peu élevés et ils oublient les locaux. Et là, ce n'est pas le cas. C'est une superbe réussite.
Eh bien, ça, c'est vrai. Nouvelles auberges. Alors, attention, ce n'est pas qu'un guide, entre guillemets, de nouvelles auberges. Il y a aussi plein de recettes dans ce livre parce que vous êtes allé rencontrer, on vient d'en parler, de vrais chefs cuisiniers qui ont tous un univers, une cuisine et puis un territoire à défendre, comme on dit. Hein.
Oui, alors, en plus, on a pour tous les goûts parce qu'on parlait de l'auberge de la Roche qui a une cuisine quasi semi-gastronomique. Qui est très subtil. Il y a des recettes que j'adore à Chassignol, par exemple, où c'est juste des modes de cuisson du poulet. C'est un truc formidable. Moi, je ne connaissais pas. Peut-être que vous, ça vous paraît tout à fait logique.
Mais poché, hein, c'est ça.
Voilà, on le poche, on le met dans l'eau froide, dans un bouillon. On le porte à ébullition une première fois. On laisse refroidir. On porte à ébullition une seconde fois. Et là, le poulet est parfaitement cuit. Alors, Milan, qui adore le beurre, qui est le chef de Chassignol, il le découpe et après le fait retire un peu dans le beurre pour qu'il soit un peu... et il rajoute en plus une sauce au beurre. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça.
Mais c'est une très belle technique, ça, justement. Merci d'être venu nous en parler, Victor Coutard.
Merci beaucoup.
Nouvelles auberges, cuisine de campagne chez Tana Édition. C'est un joli road trip. Ne bougez pas. On revient dans un instant avec Fabrice Eboué. Il revient au cinéma mercredi prochain avec un film qui s'appelle Barbac. Ça promet, on va en parler.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bon samedi sur Europe 1. Nous sommes partis nous balader tout à l'heure dans le Pas-de-Calais pour faire une belle cueillette de champignons. Bon, on y reste, tiens, une balade musicale en forêt avec Billy the Kick. Mangez-moi.
Faut laisser couler et puis... Un après-midi d'automne, on a
avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, c'est le chant du silo qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là, heureusement on avait des capuches, et surtout des pochons solides. Là-bas les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu, il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette. Mangez-moi, c'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Est-ce que c'est un bon? Mais non, c'est pas un bon, car y a pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur, ne me décourage pas. Ouvrons les oreilles et écoutons. Mangez-moi, c'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Au toi tu marches comme un canard, mais c'est pour mieux le voir. Oh putain, j'ai mal au dos, il faudrait un détecteur. Et sûrement qu'ils ont tout raflé. Ce coin-là, c'est sûr, il est connu. Putain, franchement, comment veux-tu? Maintenant, il est trop tard. On est bien avancé, on a les pieds tout mouillés. Mangez-moi.
Plutôt que de m'écraser, pourquoi ne pas me manger?
Alors on est parti à la cambrousse. Le champ était humide, suffisamment acide. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi. C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
C'était Billy the Kick, Mangez-moi sur Europe 1, un titre de circonstance, vous allez comprendre. C'est l'heure d'accueillir notre invité, humoriste, comédien, metteur en scène et réalisateur. Il sort mercredi son quatrième film intitulé Barbac, une comédie sanglante et politiquement incorrecte. Amateur d'humour noir, vous allez vous régaler. Fabrice Eboué, notre invité. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Barbac, ça sort le 27 octobre avec vous-même dans le rôle principal et Marina Foïs. Alors déjà, merci de nous remettre Marina Foïs dans une comédie. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue dans une comédie.
Ah ouais, pourtant, elle est merveilleuse.
Hein. Elle est fantastique.
Puis elle vient des Robin des Bois quand même.
Comment ?
Ouais. Bah c'est le piège hein, quand on a du talent comme elle. Ensuite, on est demandé par le cinéma avec un grand A. Mais elle est, dès que je lui ai envoyé le film, ça l'a fait marrer tout simplement. Elle dit bah, ça fait longtemps que je ne m'étais pas marré en lisant un truc, c'est parti. Mais le lendemain, elle m'a rappelé, ce qui est très rare.
Et ben nous aussi, ça nous a fait marrer.
Ah, moi, je dois avouer que j'ai rigolé du début à la fin du film. C'est peut-être parce que je suis belge et que je suis très sensible à cet humour un peu grinçant qui m'a rappelé moi les débuts de Benoît Poulvorde dans Cet arrêt près de chez vous. Faut le dire, le film, il est, enfin, il y a quelques scènes, on s'accroche un peu.
Oui. oui, alors c'est sanglant, hein, c'est interdit au moins de 12 ans d'ailleurs.
Oui, mais c'est une comédie romantique.
Absolument, oui, oui. Alors... oui, c'est les Bonnie and Clyde du jambon un peu.
Ouais.
Alors, je raconte l'histoire. Vous incarnez Vincent Pascal, un boucher marié à Sophie, qui est interprétée par Marina Foïs, donc, un boucher passionné par son travail, mais le couple et le commerce battent de l'aile, et un jour, par accident, vous renversez avec votre voiture un vegan militant qui meurt sur le coup et vous allez le transformer en jambon. Et figurez-vous eh bien que ce jambon va séduire la clientèle du quartier. Le commerce va repartir et ce jambon, bah, il est incroyable, tout le monde se l'arrache.
Oui, alors précisons qu'ils vont tuer par inadvertance un vegan qui avait au préalable saccagé leur boucherie.
Exactement.
Parce que, oui, c'est important de le dire.
Alors dans ce film, on trouve des bouchers stupides et racistes, des vegans butés et donneurs de leçons. Tout le monde en prend pour son grade. Hein.
Oui, c'est pas un film militant. C'est un film d'abord pour se marrer. J'avais beaucoup envie de faire un film sur les tueurs en série. Et moi, à l'origine, j'ai une petite nièce qui est végane. 16-17 ans, c'est le moment où on se cherche. Alors elle a pris cette voie-là un peu militante. Et un jour, je suis en train de faire des œufs à la maison. Je le raconte dans mon spectacle d'ailleurs. Et elle me dit, t'as pas honte de manger des fœtus? Alors je lui dis, c'est pas des fœtus, c'est des œufs. Elle me dit, c'est pareil. Je lui dis non, c'est pas pareil, je pense pas qu'un médecin, quand il fait un avortement, il attend avec son jus d'orange et ses mouillettes. Alors, ça a fait marrer ma mère qui était à côté. De ça, j'ai fait un sketch qui marchait très bien sur scène lors de mon dernier spectacle. Et je me suis dit, c'est quand même un thème qui est assez passionnant parce que ça parle de façon de manger. Tout le monde aujourd'hui a un régime spécial.
Ah bah oui, oui, entre les sans gluten, sans lactose, les véganes, les végétariens.
Je vous le confirme,
le meilleur restaurateur.
Le meilleur terme, ça reste foutage de gueule absolu, flexitarien. Ah. C'est-à-dire que c'est des gens qui mangent de tout. Je vois pas pourquoi ils ont inventé un nouveau terme pour ça. Tu vois,
si, parce qu'ils mangent un peu plus de légumes que par rapport
ouais,
à avant.
Voilà, ouais, bon, voilà. Mais pour finir quand même sur le thème des véganes, qui est porteur de comédie, mais aussi qui est un thème de notre société, ça rejoint ce qu'on appelle, et dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la cancel culture. Parce que si demain on devient tous véganes, désolé pour monsieur qui est restaurateur, mais c'est la fin du bourguignon, c'est la fin de la blanquette de veau, c'est la fin de toute la culture gastronomique.
C'est la fin de la France.
C'est exactement.
Vous aimez manger, Fabrice Eboué, quel est votre goût de la semaine alors?
Ah bah j'aime beaucoup manger. J'ai mangé récemment une... excusez-moi, je c'est pas fait exprès, mais bon, c'était pour le coup une épaule d'agneau confite.
Mais c'est très bon,
on vous pardonne.
Oui, voilà. Je mange moins de viande, il est vrai.
Vous pardonnez.
Mais non, c'est une blague.
Et je précise qu'après le film, on a évité la gabegie, le gaspillage sur le film, évidemment. On a pris de la viande qui est déjà en fin de vie, entre guillemets, pour pas trop en gâcher. Mais pendant deux semaines de la partie en boucherie, on l'a mettait sur l'étal, on la remettait au frigo le soir, on la remettait, ce que je déconseille de faire au boucher. Donc, évidemment, au bout d'un moment, c'était très faisandé, très maturé.
Oui, parce que vous jouez vraiment au boucher dans ce film. On vous voit tapoter la côte de bœuf, plier les emballages comme il faut. Vous avez suivi une formation?
Ouais, puis là, j'ai vraiment vu qu'il y avait un problème au niveau du manuel pour moi, hein, parce que le temps qu'il m'a fallu pour comprendre comment on pliait bien un steak.
C'est un vrai métier.
Et je vais te dire, c'est tellement un métier que je suis pendant 3 jours des cours de coupe avec le boucher qui me montre comment on fait. Et dès la première scène, je réussis à me couper le doigt. Donc, c'est effectivement, j'ai dit, c'est un métier.
Eh ben, c'est un vrai métier. On va en parler avec vous, Yves, justement, parce que vous êtes un chef cuisinier, mais vous êtes surtout aussi fils de charcutier. Et vous allez nous aider à reconnaître un bon établissement. Comment reconnaître un bon boucher, un bon charcutier? Parce que c'est vrai qu'on parlait des auberges tout à l'heure, il y en a pour tous les goûts. Mais pareil, chez les bouchers, et vous en parlez dans le film, il y a des bouchers industriels et il y a des bouchers qui travaillent effectivement avec des élevages locaux aussi.
C'est un peu le drame de tous les métiers de bouche, c'est que tout le monde fait, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc étant donné qu'on n'a pas assez de protection, on arrive à des situations assez grotesques. Alors comment reconnaître un bon boucher? La première chose, j'ai envie de vous dire, essayez d'aller dans une boucherie qui reste à taille humaine. Voilà, quand on voit ces grandes boucheries assez industrialisées, déjà, il faut les éviter. Après, très rapidement, c'est la couleur de la viande. Voilà. Par rapport au bœuf, quand on a une viande qui est assez claire, qui n'a pas trop de couleur, ce n'est pas bon signe.
Non, on veut du persillé.
Voilà. Il faut du persillé. Alors, c'est quoi le persillé, Laurent? C'est une viande qui a une couleur assez dense, avec des petits points blancs. C'est ce qu'on appelle le persillé. C'est la base. Après...
On en parle dans le film de tout ça, c'est comme ça que je choisis mes victimes.
Mais bien sûr.
Celui-là, il a l'air bien persillé.
Il y en a qui sont un petit peu trop maigres, un petit peu. Voilà, vous dites non, il n'y a rien à manger dans celui-là.
Après, il faut parler au boucher, le dialogue. Ouais. Le dialogue, c'est important. Voir si face à nous, on a quelqu'un qui est capable de répondre à des questions ou de parler avec passion de son métier, c'est primordial. Et puis, une petite astuce, vous lui demandez certains morceaux. Vous allez lui demander de la poire, vous allez lui demander du merlan.
Ah oui, voire des morceaux du boucher.
De la surprise. C'est des morceaux qu'on va chercher sur les carcasses. C'est-à-dire qu'on n'achète pas de la viande sous vide, on a des carcasses, on va totalement les désosser. C'est là le métier de boucher. Et ces morceaux, en général, sont réservés toujours de côté aux vrais clients. Si le boucher vous dit, mais malheureusement, j'en ai pas cette semaine.
Je les ai mangés moi-même.
Mais voilà. Il a raison, sauf que vous pouvez lui répondre.
Mais je reviendrai la semaine prochaine.
Gardez-moi pour la semaine prochaine.
Et ben voilà.
Ah oui. Et si vous répondez, je vous les garderai, c'est que vous avez déjà affaire à un bon boucher.
Ce qu'on voit aussi beaucoup dans les boucheries aujourd'hui, ce sont les armoires à maturer, vous savez, des sortes de frigos vitrés, effectivement, avec des belles côtes, des belles entrecôtes, de la basse côte, qui sont maturées et qui peuvent faire peur en couleur.
Alors moi, c'est vraiment mon péché mignon, hein, je le dis. Moi, les viandes maturées et ces boucheries spécialisées avec des armoires, c'est... Et alors moi, mon morceau préféré, c'est le tomahawk.
C'est une découpe américaine.
Ouais, alors j'ai un peu honte de le dire. Hein, c'est vraiment. Et même au-delà, c'est pareil, c'est japonais, mais le wagyu, pardon. Moi, je préfère le tomahawk au wagyu généralement.
Ouais, c'est différent. Alors, c'est les goûts et les couleurs.
Ouais, sont évidemment.
Après, la dernière chose aussi, peut-être la plus importante. Vous vous trouvez en Gascogne. Vous êtes face à votre boucher. Vous lui demandez bien sûr, qu'est-ce que vous avez comme race de cochon. Et si vous répond, j'ai pas le cochon gascon. J'ai le cochon qui vient d'Iran. Inquiétez-vous.
Alors ça c'est super parce que c'est voilà, il faut qu'on raconte d'Iran. C'est le nom que vous donnez à votre jambon vegan, à votre jambon humain, puisque vous transformez des vegans en jambon. Et les gens vous disent, mais c'est quoi ce jambon? Il est incroyable. Et vous dites, c'est du porc d'Iran. Ah bon, on fait du porc en Iran? Et vous avez toute une théorie, vous racontez pourquoi on fait du porc
en Iran. Ouais, je vais pas spoiler le film, mais évidemment, le mec est embarrassé. Il faut qu'il trouve rapidement d'où vient son porc. Et il se dit, bon bah, pour que le porc soit extrêmement rare, je vais citer un pays où, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Il en reste plus beaucoup. Effectivement, je pense pas qu'en Iran, il y ait beaucoup d'élevage de porc.
Voilà, et vous aurez la raison en allant voir le film Barbac. Ça sort mercredi au cinéma et ça fait marrer et ça fait du bien. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec notre plat du jour, tiens, pour Fabrice Eboué. Alors, il y aura de la viande ou il n'y aura pas de viande? Eh bien, vous verrez, surprise.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez, allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, 12h30, la table des bons vivants. Laurent Bariotte.
Soyez les bienvenus, hein, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble depuis 11h. Vous retrouverez le début de l'émission en vous abonnant au podcast sur europe1.fr et nous revoilà avec notre invité Fabrice Eboué qui sort mercredi au cinéma Barbac, une comédie romantique avec les Bonnie and Clyde du jambon. C'est vraiment à mourir de rire avec Marina Foïs. C'est un film où vous transformez des véganes en jambon, on en parlait. Alors c'est vrai que les produits véganes séduisent de plus en plus, il y a des artisans qui sont spécialisés dans le domaine et ça nous a donné envie, Fabrice, de vous faire goûter des produits véganes qui jouent avec nos terroirs, hein, on peut le dire.
Oui, alors vous avez un tartinable qui se voudrait être un pâté, mais qui est à base de champignons et d'ail, qui n'est pas mauvais d'ailleurs.
Non, mais c'est pas mal parce que c'est marqué tartinable, il ne marque pas que c'est du pâté.
Mais là, dans le film, vous dites un truc, vous avez raison. Pourquoi on devrait s'approprier en végan en disant je fais un boudin de tofu, alors que chez un boucher, on ne va pas vous dire je fais une endive de bœuf.
Oui, c'est assez amusant. Mais c'est toujours pour séduire la clientèle parce qu'il y a même du saucisson halal maintenant qui est fait, alors qui est fait avec d'autres viandes que le cochon. Mais on essaye toujours d'attirer vers des produits que les gens connaissent. Donc je vais essayer ce pâté.
Goûter.
Allez, c'est parti. Donc.
Alors ça vient d'une épicerie qui s'appelle Mon Épicerie Paris.
C'est pas mauvais le tartinable aux champignons. Franchement, si c'est vendu comme du tartinable aux champignons, c'est très bon.
C'est pas mal. Après, c'est pratiquement une duxelle de champignons, mais c'est quelque chose de classique dans la gastronomie française.
On met le mot vegan par-dessus, mais effectivement, ça n'a rien de nouveau. Absolument.
Ça n'a rien de nouveau.
Et c'est bon.
Une duxelle de champignons bien relevée avec de l'ail, ça a toujours été bon.
Ça, c'est l'apéro. C'est bon. On a le plat du jour qui va débarquer dans un instant.
C'est une duxelle, alors. Une duxelle.
C'est une duxelle. Il y a une belle humidité qui amène de la fraîcheur. C'est pas du tout empâtant en bouche. On a la pointe d'ail qui apparaît derrière, c'est agréable.
Fabrice Eboué, j'ai découvert que vous étiez allé à l'école à Amiens, dans la même école qu'Emmanuel Macron, et pratiquement au même moment en fait.
C'est très drôle, on a le même âge. On est de 77 tous les deux. Alors, à la différence près que j'étais très turbulent, moi j'ai été renvoyé 7 fois. Donc j'arrive à Amiens un peu en dernier recours, c'est en classe de seconde, j'ai déjà un an de retard moi du coup, et je vais à l'internat, puisque moi je viens de région parisienne, et mon collègue de chambre, celui qui partageait la chambre de l'internat avec moi, l'année d'avant, était avec Emmanuel Macron, qui lui avait un an d'avance. Donc il y a un type que je chalue, on peut citer son nom, si vous voulez l'interviewer, il s'appelle Charles Cure. je l'embrasse et Charles Cure pourra témoigner puisqu'il a été à la fois avec Macron et l'année d'après il était avec moi en chambre.
Et il a préféré qui ?
Et il m'a dit ça parce qu'il est passé avant spectacle toi, il dit je sentais que vous aviez chacun un truc spécial mais pas du tout dans le même domaine.
Ça s'est confirmé.
C'est ça se confirme. Est-ce qu'il y avait des véganes autour de vous pendant la production et pendant le tournage de ce film ?
Ouais, bien sûr, il y avait un technicien vegan, Tom Bouchoucha, que je salue aussi, qui faisait partie de l'équipe des Machinaux. Qui s'est beaucoup marré en faisant le film avec nous. Voilà, c'est comme tout, hein, y a des véganes qui sont très cool. Moi, chacun, comme on dit, hein, chacun fait ce qu'il veut avec son cul, chacun met ce qu'il veut dans son assiette. Moi, et lui, il s'est beaucoup marré. La seule difficulté, mais on l'a eu aussi, j'en ai parlé au début, c'est passer son temps pour lui dans la boucherie avec les odeurs de viande qui étaient de plus en plus fortes. Au bout d'un moment, il me disait, c'est un peu dur, Fabrice. Mais pour moi aussi, à la fin, c'était un peu dur. Donc voilà.
Forcément, ouais. Forcément. Alors, c'est l'heure du plat du jour. Vous êtes le roi de la blanquette. Vous adorez la côte de bœuf. Mais pour le plat du jour, vous avez eu envie de manger un plat vegan. Alors pourquoi ? C'est de la provoque toujours pour rester dans l'esprit du film ?
Pas du tout. Et sachez qu'hier, j'en ai déjà mangé puisque j'ai souhaité parler un petit peu avec des militants véganes parce que je trouvais ça intéressant de faire ça autour d'un bon repas et autrement que dans des débats très houleux qu'on pourra régulièrement...
Mais oui, ça rassemble, le plat végan oui, rassemble voilà,
mais,
aussi.
Mais c'est
il ne fait pas que diviser le plat végan.
Mais c'est le principe de partager un repas, c'est
exactement.
Rassembler. La nourriture, c'est fait pour rassembler. Donc c'est marrant qu'on arrive encore aujourd'hui à se diviser même autour d'un plat. Donc moi, volontiers, je mange un plat végan.
Alors ce sont des lasagnes véganes qui viennent du restaurant Soya Cantine dans le 11e arrondissement de Paris. C'est Christelle Duit qui est à la tête de ce restaurant. Mais... elle était vraiment végétarienne au début et elle est passée vraiment sur le végétal complet. Donc effectivement,
Laurent,
on peut
Laurent,
dire un restaurant végan.
Pourquoi dire que c'est des lasagnes véganes ? C'est des lasagnes de légumes.
C'est ça.
Qui sont très bien faites.
Oui, mais on pourrait.
Qui sont très bien faites.
Il n'y a pas d'œuf dans la pâte.
Il n'y a aucun produit d'origine animale. C'est ça qu'il faut
y
expliquer.
Il n'y a pas de crème ?
Oui, il a raison. Il n'y a pas de crème. Oui, pas de crème.
Mais c'est des très bonnes lasagnes de légumes, bien assaisonnées, bien relevées, qui ont de la longueur en bouche.
Mais c'est vrai qu'on ne sent pas que la béchamel ne contient pas de lait. On ne sent pas qu'il n'y a pas d'œuf dans la pâte.
Lait de soja et margarine pour faire le roux, un petit peu de noix de muscade, des légumes cuits à la vapeur, une sauce tomate maison. Ensuite, c'est de l'assemblage. Et il y a une ricotta végétale qui est juste à côté pour vous, Fabrice. Et cette ricotta, elle est faite à base de noix de cajou mixées et pressées avec du jus de citron. Donc c'est vrai qu'on joue avec la nourriture avec ce genre de plat. Donc c'est vrai, je suis d'accord avec vous, Yves. Pourquoi dire vegan, végétalien, végétarien ? C'est bon, c'est pas bon.
C'est
tout.
Voilà, exactement. Ben
voilà, c'est très bon.
Ouais. Voilà. C'est ça qui est important. Je peux vous assurer qu'il y a bien souvent des lasagnes faites avec la protéine animale.
Qui sont moins bonnes que ça.
Bien moins bonnes que ça.
Très très bon. Ça vient de Soya Cantine, dans le 11e arrondissement. Parle la bouche pleine, pardon. Non, c'est bon.
C'est bon.
Et est-ce que le vin est vegan ? Parce que...
Ben on va y venir.
On va y venir.
Mais
on a une chronique sur ça. Ben,
pardon, parce qu'il est bon aussi. Mais alors
Je vais teaser, comme on dit, mais les deux minutes du vin d'Olivier Pouls arrivent dans un instant. Est-ce que le vin sera vegan ou pas ? Eh bien, vous le saurez. Ça vous plaît, Fabrice Eboué ?
C'est très bon. Très bonne lasagne.
Soya Cantine dans le 11e arrondissement. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec les deux minutes du vin d'Olivier Pouls. Et puis tiens, vous, Fabrice Eboué, on va vous passer sur le grill. Ça va manger les véganes. Allez, à tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Bon samedi midi à table avec nous. Bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire, qu'elle soit végétarienne, végane ou autre. Nous sommes en compagnie de Fabrice Eboué qui sort son film mercredi prochain. Ça s'appelle Barbac. Dans ce film, on retrouve aussi quelqu'un que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien et apprécient. C'est Christophe Ondelat hein, qui joue son propre rôle, Fabrice Eboué. Marina Foïs qui joue votre femme est hyper fan de ses émissions. Elle connaît tous les serial killers ainsi que leur mode opératoire. Et vous-même, vous êtes fan de ce genre d'émission.
Oui, c'est un plaisir coupable, mais effectivement, j'en suis. Non, mais d'abord, c'est intéressant. C'est vrai que Christophe Ondelat, c'est un peu devenu l'étendard hein, des tueurs en série, des faits divers en France. Mais c'est vrai que ça passionne tellement de monde. Regardez l'affaire Daval, comment elle a été couverte. C'est-à-dire, sur les chaînes d'info, il y avait limite des annonces comme pour des séries. Ce soir, la suite du procès. Enfin, c'était totalement incroyable.
Vous
quoi.
Avez fait un truc super drôle sur votre Instagram à propos de l'affaire Dupont de Ligonnès, quand on a cru avoir retrouvé Dupont de Ligonnès. Vous filmez et vous dites...
Oui, pour regarder sur l'Insta. Non, mais
Quelle déception.
Ben oui, quelle déception. Je dis, moi, j'avais convoqué des amis, on se faisait une soirée spéciale, etc. C'est vrai qu'il y avait un engouement. Mais c'est incroyable parce que Dupont de Ligonnès, en fait... tant qu'il ne sera pas retrouvé, il y aura une passion pour cette affaire, parce que les gens se disent, est-ce que ce gars-là a réussi ce que plus personne ne réussit, parce que c'est le crime parfait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui...
Et disparaître.
Et disparaître. Donc le crime parfait, c'est-à-dire que tu tues des gens, personne ne te reconnaît. Et aujourd'hui, entre les tests ADN, t'allumes ta voiture, on sait où t'es parti, machin, faut être un vrai génie. Donc c'est vrai que c'est pour ça que Dupont de Ligonnès, ça passionne les gens. Oui.
Alors Fabrice Eboué, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sur Europe 1, la radio sur laquelle officie Christophe Ondelat.
Tout à fait.
Et Christophe Ondelat qui joue dans votre film son propre rôle. Eh bien regardez qui nous avons invité pour le déjeuner de ce samedi midi. Christophe Ondelat qui débarque et qui n'est pas parti en week-end pour vous voir et venir casser la croûte avec
Merci
nous.
Merci mon Christophe.
J'ai pas pu être en avant-première, il fallait que je me rattrape.
Bonjour Christophe Ondelat.
Il m'a fait...
Salut Fabrice.
Il m'a fait le... Je vais vous le retrouver. Le texto le plus drôle. Attendez, je vais vous le retrouver. Vous pouvez parler d'autre chose en attendant.
Mais... Vous jouez votre propre rôle. Et oui, c'est pas un petit rôle, hein, Christophe.
C'est pas un petit rôle, mais c'est quand même un rôle très facile à interpréter. Et ce qui m'a fait comme coup, mais ça c'est le cinéma, il a reproduit le studio de Faites Entrer l'Accusé au millimètre. Les mêmes meubles, les mêmes objets au même endroit, etc. Ce qui fait que c'était très troublant parce que j'ai arrêté de tourner Faites Entrer l'Accusé il y a 10 ans. Et je me suis trouvé à retourner dans les mêmes postures, en faisant les mêmes gestes, et en connaissant les distances, les déplacements, les retournements, c'était, il y avait un côté... voilà.
On ne peut pas tout raconter, mais il y a un moment avec Madeleine une belle interview aussi à la fin. On ne va pas évidemment dévoiler la fin du film. Oui, Fabrice.
C'est un peu le conteur du film, en fait, qu'on retrouve au fur et à mesure. C'est lui qui rythme le film. Pour moi, c'était une consécration. On a tellement fait, moi, pendant mes tournées, avec les gens avec qui je bosse sur mes tournées, notre grand truc, c'était essayer d'imiter la façon dont Christophe raconte et la façon dont il a de peser les mots. Parce que c'est un art. Hein. Et quand il nous dit, je ne sais pas, par exemple, il va parler d'une Clio, il va dire « c'est une Clio jaune ». Mais tout ça, c'est un art. Et quand je lui ai donné les textes, j'avais écrit les textes des faux tueurs en série avec
la
tous un double prêt.
De Béthune.
9 millions de podcasts téléchargés par mois. Christophe Ondelat, c'est le premier podcast de récit en France. C'est un succès inouï. Tous les après-midi de 14h à 16h.
Sur SMS, tu l'as trouvé ?
Alors j'ai trouvé. Non, parce que c'est tellement décalé dans une avant-première de cinéma. Juste avant, il m'a dit je passe. Et puis finalement, il a un empêchement. Donc je l'ai lu, je te le dis à tout le monde. Parce qu'il dit « Mon cher Fabrice, j'ai un épisode de ma série sur Guy Georges à terminer. Donc c'est extraordinaire d'avoir ces priorités.
Mais c'est vrai.
Comment vous faites pour vivre avec tous ces tueurs ?
J'ai passé toute la semaine là à écrire une série en 3 épisodes et même il y aura un bonus pour le podcast avec un 4e épisode sur Guy Georges. C'est un travail titanesque. Et donc j'ai écrit cette semaine 75 000 signes pour cette série qui fera 100 000 signes au total, c'est-à-dire quasiment un livre.
C'est dingue.
Que j'ai écrit en une semaine.
Mais on vous voit travailler. Votre bureau n'est pas loin d'une autre et on vous voit travailler effectivement, écrire, venir, vous isoler.
Je passe 8 heures par jour devant l'ordinateur comme ça.
C'est de l'artisanat.
Ah, totalement.
C'est du bel artisanat.
Ouais, ouais.
Votre personnage s'appelle Vincent Pascal, Fabrice Eboué, dans ce film. C'est pas par hasard si ce sont deux prénoms.
Bah non, parce qu'effectivement, il y en a plein. On a parlé récemment avec Christophe, il va faire l'explication
après. Guy, Georges, Émile, Louis, Monique, Olivier, etc.
Thierry Paulin.
C'est dingue.
Ouais.
C'est incroyable.
Donc il y a une explication. Alors, en fait, ça t'intéresse.
Ouais, je veux bien. ça m'intéresse. C'est quoi l'explication ?
Il ne faut pas la généraliser, mais il y a une belle piste. Tous ces psychopathes sont en général des enfants de la DAS. L'une des grandes fabriques à psychopathes, c'est l'abandon par la mère à la DAS. Et la DAS, quand l'abandon est constaté, efface le nom de naissance, c'est le cas pour Guy Georges qui s'appelait Guy Rampillon. Il est abandonné par sa mère, efface son nom et on lui colle son deuxième prénom comme nom. Il s'appelait Guy Georges Rampillon et il devient Guy Georges.
Voilà. Ah, ça c'est intéressant, voilà. Ça c'est de l'info.
Voilà, et c'est comme ça pour beaucoup de... Émile Louis est un enfant de la DAS, etc. La plupart des psychopathes sont psychopathes parce qu'ils n'ont pas été aimés petits.
Donc si vous vouliez voter Édouard Philippe, méfiez-vous quand même.
Dans ce film Barba qui sort mercredi, les véganes boivent du vin aussi parce que le végan est herbivore. Mais est-ce qu'il boit du vin, Fabrice Eboué ?
Oui, alors il y a effectivement ce qu'on appelle du vin végan. Et c'est vrai que les véganes jusqu'au boutiste ne boivent pas de vin traditionnel, même pas bio. Eux, ils ont un vin vegan et j'ai appris ça de Raphaël Mesraïdien, qui est vegan.
Qui fait un champagne vegan.
Exactement,
absolument.
Et qui m'expliquait donc qu'ils font attention, qu'ils lavent les grains et qu'ils les trient pour éviter d'écraser des petits escargots, des moucherons, etc.
Les coccinelles.
Voilà.
Alors, vous n'êtes pas vegan, Christophe Ondelat?
Ah non, je suis basque. Qu'est-ce que vous voulez que
c'est une lasagne
je
vegan.
Je me nourris de charcuterie du matin au soir.
Mais elle a l'air de vous plaire, cette lasagne là que vous mangez.
C'est excellent.
Hein, c'est
non, mais attendez, c'est pas parce qu'on n'est pas vegan qu'on ne peut pas reconnaître que
c'est bon.
C'est très bon.
C'est ce qu'on dit.
Oui, voilà.
Et on est d'accord, absolument. Oui. Alors parlez-nous un petit peu de ces vins véganes, parce qu'effectivement, ça existe, Olivier Pouls. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un vin végane? Parce qu'il y a un cahier des charges, il y a une définition quand même.
Vous imaginez bien qu'il fallait bien aller sur ce terrain-là et ne pas l'abandonner d'un point de vue marketing, c'est assez juteux. Alors vous l'avez dit, la définition du vin végane, c'est notamment l'idée que ces petites bêtes qui sont dans la vigne et qu'on ramasse par inadvertance au moment des vendanges, il ne faut pas les mettre dans le pressoir avec le reste. Et donc, certains prétendent qu'ils scrutent chaque grappe de raisin pour voir s'il n'y aura pas une petite coccinelle. Honnêtement, c'est un peu de la foutaise, parce que quand on voit la vitesse à laquelle ça va une vendange, il y en a forcément dedans. Mais tout le jeu...
Et on ne voit surtout pas où est le problème. Bah... c'est quand même ça, la base.
Alors, en fait, mais tout l'enjeu, c'est focalisé sur une autre étape de la vinification qu'on appelle le collage, et qui est une étape pratiquement obligatoire.
C'est intéressant.
En fin de vinification... On colle les vins, c'est-à-dire qu'on les débarrasse des petites particules en suspension qui sont les levures mortes en réalité.
Une clarification.
Ouais. Et cette clarification, traditionnellement, elle se fait à l'albumine d'œuf, au blanc d'œuf battu.
Oui, il y a cette histoire-là.
Mais aussi à des colles de poisson ou à de la colle à base de bœuf, de gélatine de bœuf. Et ça, bien évidemment, pour les véganes, ce n'est pas acceptable.
Ah, dans le vin, tu as de l'œuf ou...
Il y a des résidus ou des traces d'œufs parce que le vin a été collé à l'albumine d'œuf. Pour ce qui est du vin vegan, il existe une alternative. Ce sont aujourd'hui des cols qui sont végétales à base de pois.
Cola rustine, quoi.
Alors, pas tout à fait la même. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une matière qui est plus lourde que le vin, puisque ce qu'elle va faire, c'est qu'on va la mettre au-dessus du tonneau. Et en descendant, elle va ramasser toutes les petites particules qui sont en suspension. Ensuite, on ne la met pas, évidemment, dans la bouteille. Mais ces cols végétales permettent d'obtenir un label vegan, et il existe désormais ce label vegan sur les bouteilles. Je vous en ai apporté un. C'est un grand château de Bordeaux qui s'appelle le château d'Ozac à Margaux et qui est donc estampillé vegan. La réalité, c'est que faire du vin vraiment totalement vegan, c'est pratiquement impossible. Il faudrait vérifier sur chaque grain qu'il n'y ait pas un petit puceron qui traîne. On imagine bien que c'est irréaliste. Ça ne l'empêche
pas.
Le vin est bon.
Il est très
bon.
Mais c'est le même que celui qui n'est pas vegan.
Ils ont juste changé la colle en ce qui les concerne. Voilà, donc ils ont une colle à base de pois et non pas une colle à base de blanc.
Il est très bon. Fabrice Eboué, votre film sort mercredi. Barbac, comment vous vous sentez? Stressé?
Non.
Il est super stressé, vous rigolez ou quoi?
C'est pas bon pour la viande, vous le dites dans le film, faut pas être stressé, ça durcit la viande.
Il faut réaliser que ce film, on l'a tourné au deuxième confinement, c'est ça? Enfin,
ouais, juste entre les deux.
Et donc ça fait très très longtemps qu'il est tourné et monté.
Ouais.
Donc voilà, il a une grosse pression.
C'est le bébé qui sort mercredi.
Totalement angoissé.
Non, t'as deux étapes dans un film. La fin du montage, savoir si t'es fier de ton film et de le présenter, ça c'est le cas. Et puis après, la cerise sur le gâteau, c'est quand ça fonctionne bien. On espère revoir les gens en salle, parce que je sais que même les semaines précédentes, ça met du temps à redire. Voilà, mais là c'est mercredi pour Barbac,
au cinéma. Vous êtes un peu stressé, un peu tendu, on va vous attendrir, on va vous passer sur le grill des bons vivants, Fabrice Eboué. Quel est le goût de votre enfance? Au revoir Christophe Ondelat.
Salut Christophe Ondelat.
Merci, bon week-end.
Merci d'être venu.
Ils vont me faire la même surprise à chaque émission, toute façon.
Quel est le goût de votre enfance, Fabrice Eboué?
Ah bah le sein de ma mère.
Le premier plat que vous avez cuisiné.
Alors, pour rester un peu en Normandie, parce que c'est ma mère qui cuisine énormément, ma grand-mère cuisinait énormément aussi, mes deux grand-mères d'ailleurs, côté Cameroun et Normandie, c'est pas forcément la même gastronomie, mais là j'ai plus pris côté Normandie au départ, c'était la tarte aux pommes, parce qu'on passait tous par là vers 7-8 ans, et nous, on mettait les mains dans la pâte, on mettait les pommes sur la tarte, donc la tarte aux pommes.
Ouais. Votre plus beau repas?
J'avais fait avec quelques amis, dont un qui est, que je cite souvent, qui s'appelle Vincent Solignac. il a un bar à vin juste en face des Folies Bergères.
Absolument.
Voilà, c'est
avec
un pote à moi.
Avec de belles planches de charcuterie.
Voilà, et c'est un peu mon sparring partner puisqu'il est co-auteur sur le film Barbac. Et on s'était fait, dans ma maison en Normandie justement, un gros barbecue. Et on avait tous ramené notre morceau de viande favori, donc du maturé, du tomahawk, etc. Et on s'est fait un gros gueuleton de viandard, là, pour le coup, pendant une belle soirée. Récemment, en tout cas, ça a été un très beau dîner.
Votre pire repas ?
Généralement, les pires repas ne sont pas liés à la nourriture. Ils sont liés avec qui on...
l'environnement.
Avec l'environnement. Mais je crois que j'ai le meilleur. J'avais rencontré une fille en soirée. On se retrouve pour aller les dîner ensemble. je ne saurais jamais ce qui s'est passé, ni ce que j'ai dit. Après l'apéro, elle part aux toilettes, elle n'est jamais revenue. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si son ex, dont elle était folle amoureuse, tu sais, lui a envoyé un texto.
Ah, c'est drôle.
Voilà. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Et
faut en parler en delà, tu peux faire un épisode.
Oui, c'est exactement ça. Je ne sais même pas ce qu'elle est devenue, donc je ne vais pas citer son nom ici, mais si elle me reconnaît, juste un petit coucou pour savoir si elle va bien. Ça
manifestez-vous.
Voilà.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, Fabrice Eboué?
Bah, sur une île déserte, forcément, tu emmènes de la viande, puisque le poisson t'est quand même servi. Normalement, il y a tout ce qu'il faut autour de toi. Donc oui, peut-être une pâtisserie quand même, hein, sur une île déserte, ouais. Une petite pâtisserie. J'ai un film culte qui est « Il était une fois en Amérique », et je trouve qu'il y a une scène qui est une des plus belles scènes du cinéma. Tu sais, il y a une jeune fille qui a 13-14 ans et qui donne ses faveurs en échange d'un gâteau. Tu sais,
et il les regarde devant la vitrine, ce gamin,
ouais,
les gâteaux.
Oui, c'est ça, et tu as tous les adolescents du quartier qui viennent et qui, en échange d'une pâtisserie, obtiennent les faveurs de cette jeune fille. Et puis t'en as un qui est un peu plus jeune que les autres, qui a 12-13 ans, qui est encore en enfance. Et il est devant la porte avec sa pâtisserie. Puis elle lui dit d'attendre. Et au fur et à mesure, il mange sa pâtisserie. Et finalement, la pâtisserie, c'est une scène qui est magnifique.
C'est sublime.
C'est te dire, selon ton âge, quels sont les sens qui finalement...
Exactement.
Et lui, il craque sur le gâteau, il finit tout le gâteau, il aura fallu faire de la jeune fille. Mais c'est une scène qui est magnifique pour parler un peu de gastronomie.
Un beau péché de gourmandise.
Exactement.
Et le mot de la fin, FIM, Fabrice ?
Si vous voulez vraiment aller voir un film libre, un film qui ose, un film où on retrouve ce cinéma que moi j'adorais des années 70 français, que ce soit les Jean-Yann, mais aussi des gens comme Joël Seria, tu sais, les Galettes de Pont-Aven, La Grande Bouffe,
Calmos.
Voilà, un esprit vraiment un art, un esprit de liberté et un esprit où on riait sans se poser de questions, c'est Barbac mercredi. Voilà,
et c'est politiquement incorrect et ça fait du bien. Merci d'être venu nous en parler, Fabrice.
On a bien mangé,
merci,
on s'est bien marré.
Merci à ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Salut Yves Candebord.
Merci Laurent, merci tout le monde.
Au revoir Olivier Pouls.
Merci.
On vous retrouve dans Historiquement Vôtre tous les jours avec les camarades Mathieu Noël et Stéphane Bern et puis dans le guide, la revue du vin de France qui est toujours dans les librairies.
Absolument.
Et
les meilleurs vins de France 2022. On est déjà en avance.
Rendez-vous demain 11h pour la table du dimanche. Ce sera pas triste non plus. Il y aura Joe Star et Dany qui seront avec moi et on va faire une belle ripaille. Merci de votre fidélité. Dans un instant, c'est Europe Midi Week-end avec Thierry Dagiral. Bon week-end.